Fréquence Mistral, ma radio, mon pays.
Bonjour à tous et bienvenue sur Fréquence Mistral. Nous sommes en direct de la Cité de la Musique de Marseille, dans le premier arrondissement. Nous sommes avec Dimitri.
Bonjour.
Bonjour Dimitri, Patrick.
Bonjour.
Et Julia. Bonjour Julia. Pour l'équipe de la Cité de la Musique et moi-même, donc Eva, au service communication. Et aujourd'hui, nous faisons une émission spéciale en compagnie de Mandy Le Rouge.
Bonjour Eva.
Bonjour Mandy, comment vas-tu ?
Très bien, contente d'être là à la maison, à la Cité de la Musique.
Et nous aussi, on est ravis de te recevoir aujourd'hui, malgré qu'on te voie assez souvent dans nos locaux. Alors, tu es là aujourd'hui pour nous parler donc de ton concert gratuit, La Madrugada, le jeudi 19 décembre, donc dans le 04 à Digne-les-Bains. Au Centre culturel René Char. Donc Mandy, comment ça va ?
Ben ça va, contente de venir pour parler de ce dernier concert de l'année 2019.
Donc c'est bien le dernier concert, ok. Et en plus, dans la région, du coup ?
Dans la région, pas si loin, dans les Alpes de Haute-Provence.
Parce que tu viens, Mandy, des Hautes-Alpes, c'est ça ?
Oui, alors pas les mêmes, du coup, effectivement. Non. Pas les Alpes de Haute-Provence, mais les Hautes-Alpes. Mais je suis originaire d'un territoire de montagne. Qui m'inspire beaucoup dans les musiques qu'on présente, notamment sur scène avec La Madrugada. Et bon, les Alpes de Haute-Provence, c'est pas si loin que ça, niveau paysage.
Est-ce que tu peux nous parler de ta carrière ?
Ouf, de ma carrière, si longue, de 2 ans.
C'est déjà super.
Carrière musicale est assez courte, en fait, puisque j'ai eu d'autres vies professionnelles, on va dire, avant ça. Et j'ai choisi de tout quitter et de me lancer, de me consacrer entièrement à la musique il y a maintenant 1 an et demi, bientôt 2 ans. Donc c'est assez récent. Avant ça, j'ai presque toute ma vie fait de la musique. Depuis que je suis petite, en fait, je chante. Depuis que je parle, j'ai tendance à dire même, puisque quand j'étais toute petite, avant même de parler de manière distincte, je chantais déjà dans des langues que j'inventais. Je chantais par-dessus des disques à la maison, ayant une famille qui écoute beaucoup de musique. Une sœur, un frère qui ont fait beaucoup de piano pendant mon enfance, donc bercée par leur musique. Et voilà, j'ai grandi comme ça, en écoutant beaucoup de musique, en chantant un peu comme ça, et en ayant une activité en amateur au sens noble du terme, j'ai envie de dire, quelqu'un qui aime, qui est passionné, et notamment au sein de la Cité de la Musique de Marseille.
Donc tu as débuté à la Cité de la Musique de Marseille.
Mais oui, tout à fait. Enfin, en tout cas, en arrivant à Marseille, ça fait maintenant 13 ans que j'habite à Marseille. Et quand j'ai quitté les Hautes-Alpes, bien obligé, j'allais dire, mais s'il m'écoutait, je pense que je serais reniée. Mais
il t'écoute. Hein.
Ben voilà, il m'écoute. Mais après le bac, j'ai été forcée par mes choix d'études, on va dire, à quitter les Hautes-Alpes, à quitter Briançon. Et à venir m'installer à Marseille. Et c'est vrai que ma famille d'adoption musicale a été tout de suite la Cité de la Musique de Marseille, puisque j'ai été élève pendant 2 ans en classe de musiques actuelles. Et puis, en parallèle, je chantais dans l'orchestre de Bernard Amrani.
Donc, tu as toujours été chanteuse. Tu n'as jamais eu de pratique instrumentale, uniquement du chant.
Si, j'ai fait du piano. J'ai fait de plusieurs instruments, en fait. Quand j'étais petite, on m'a inscrite au piano. J'ai une histoire comme beaucoup d'autres enfants qui, malheureusement, peuvent être un peu échaudés par la musique dans certaines manières de transmettre la musique. Et quand j'étais petite, on m'a inscrite au piano parce que tout simplement, on avait un piano à la maison et que tout le monde faisait du piano à la maison. Donc c'était un peu le passage obligé musical, alors que moi, j'avais envie de faire de la contrebasse, ce qui n'est pas forcément pratique, surtout quand on a déjà un piano à la maison. Ce n'est pas un instrument très facile à transporter et à trouver. Donc on m'a inscrite au piano et puis bon, j'ai eu la malchance de tomber sur un professeur qui n'aimait pas trop les enfants. On ne va pas le nommer, hein, on n'est pas là pour ça.
Bon, mais ce n'était pas à la Cité de la Musique.
Mais
en
ce
tout
n'était
cas.
Pas à la Cité de la Musique. Mais on pense
préciser.
À lui. et du coup, c'est vrai que j'ai arrêté de toucher au piano, tout simplement. Mais ce qui n'est pas plus mal, puisqu'en finale, c'est là que je me suis vraiment mise à chanter. Et c'est bien plus tard que je me suis remise au piano, mais complètement à l'oreille. Je ne sais d'ailleurs toujours pas lire ni écrire la musique. J'ai toujours travaillé à l'oreille et puis je me suis remise au collège, au lycée, quand j'avais 15-16 ans. Je me suis remise au piano en cherchant des morceaux que j'avais envie de chanter. Et en fait, je me suis remise au piano, mais pour m'accompagner, tout simplement. Je n'ai jamais été juste pianiste. Et après, j'ai fait de la basse électrique, pareil, pour l'envie de m'accompagner, mais à un autre instrument, et puis de comprendre un peu d'autres choses musicalement. Et puis pareil, j'ai appris à l'oreille. Et puis un petit peu, j'ai fait un peu de trompette, j'ai fait un peu de violoncelle aussi. Toujours en autodidacte, sauf le violoncelle, où j'ai pris des cours à la Cité de la Musique aussi.
Bon, finalement, quand même un large panel d'instruments étudiés.
Oui, mais je reste... voilà, c'était plus par curiosité et par envie de comprendre un peu comment... comment marchent les instruments des copains, on va dire, avec qui je chantais. Et ouais, par curiosité musicale, mais maintenant je me concentre entièrement à la voix et c'est bien suffisant. C'est déjà un instrument assez large et complexe à maîtriser.
Et qu'est-ce qui t'a motivée du coup à être chanteuse ? Qu'est-ce qui a déclenché un peu cette envie justement d'utiliser simplement ta voix ?
À me lancer, tu veux dire, professionnellement ou à me concentrer sur la voix ?
À te concentrer principalement sur la voix, déjà, premièrement.
Bon, ça s'est fait un peu naturellement. Je me suis pas dit à un moment donné, bon, allez, je vais arrêter tout le reste et puis je vais me concentrer sur la voix. Même si, forcément, bah, je manquais aussi de temps. Hein. C'est très simple. Tous les instruments, que ce soit le piano, la trompette, le violoncelle, si on n'en fait pas un peu tous les jours, en tout cas, vraiment régulièrement, on n'avance pas, quoi. Enfin, en tout cas, moi, je n'avançais pas.
Et surtout dans un cursus amateur, voilà, c'est pas...
Voilà, alors que bon, bah, la voix, c'est quand même plus simple à mettre en œuvre dans le sens où je peux chanter un peu n'importe où. Enfin, j'ai toujours ma voix avec moi, a priori, sauf quand je suis malade. Mais sinon, voilà, je l'ai toujours avec moi. J'ai pas besoin de prévoir d'avoir la trompette, le violoncelle, etc. Donc, naturellement, j'ai plus travaillé la voix. Et puis, j'avais aussi beaucoup plus de facilité hein, à la voix, naturellement. Et quand je faisais mes études, en fait, en parallèle, j'ai été contactée par un artiste qui habite à Marseille, qui s'appelle Alif Tree, qui est un artiste de trip-hop jazz, ce genre de musique-là, et qui était venu m'écouter d'ailleurs à une scène ouverte à la Cité de la Musique de Marseille, comme quoi tout passe par là, c'est dingue, et qui m'a proposé de devenir la plume et la voix de ses travaux musicaux. Donc pendant quelques années, on a travaillé ensemble. Et c'est là que vraiment je me suis concentrée sur la voix, puisque j'ai commencé à écrire des textes en anglais pour ses musiques, lui composer. Moi j'écrivais les textes et après c'était moi qui les chantais et qui faisait aussi tous les arrangements vocaux. C'est-à-dire qu'on travaillait beaucoup avec, alors pour rire et pour mettre un terme un peu pseudo-scientifique dessus, pseudo-théorique, j'avais appelé ça du vocomorphisme. l'idée c'était de un peu transformer le timbre de ma voix en fonction de ses demandes. Parce qu'il a une manière de composer et de créer musicalement qui est très cinématographique, très en lien avec des ambiances musicales. Pour chaque morceau, il y a une ambiance vraiment très différente où on peut s'imaginer une histoire même si on ne comprend pas ce qu'il raconte.
Finalement, en adaptant ta voix du coup à ses œuvres...
C'était comme créer des personnages voilà, à chaque d'accord. fois. Et il m'a permis vraiment d'explorer un énorme panel vocal. Et puis des fois, il me donnait des consignes. Il me disait, ben voilà, sur ce morceau-là, j'ai envie d'une ambiance plus... jazz États-Unis années 20, donc j'écoutais des chanteuses, des chanteurs, et puis j'essayais de trouver un peu des choses qui pouvaient aller là-dedans. Et pour chaque titre, c'était différent. Et voilà, c'est à ce moment-là que vraiment j'ai travaillé sur la voix, sinon comme moyen de, bah, effectivement, d'expression musicale, chanter, déclamer un texte, etc. Aussi comme texture sonore, texture musicale et texture sonore, travailler sur le grain, les différentes couleurs vocales.
Est-ce que c'est un élément qui t'a donné envie de te professionnaliser là-dedans, de devenir chanteuse et de finalement faire ton métier ?
Ça a été une première étape en tout cas. Il y a eu plusieurs épisodes, je pense, qui m'ont vraiment décidé à me lancer, à tout quitter pour me consacrer à la musique. Mais ça a été un des premiers, si ce n'est le premier, en tout cas un des premiers moments où je me suis dit « Ah tiens, c'est une première expérience qui était professionnelle pour le coup, puisqu'on a sorti deux disques qui sont toujours disponibles sur les différentes plateformes. »
Est-ce que tu peux nous les citer ?
Oui, alors donc l'artiste s'appelle Alif Tree, je le rappelle, et les disques s'appellent Social Mask et Everybody Knows.
Voilà, donc voilà. Pour ceux qui auraient qui la curiosité souhaiteraient... d'aller écouter ça, les premiers débuts de Mandy.
C'est ça, en anglais, plutôt en anglais et en français. Et bah oui, c'était une première expérience pro et puis aussi une ouverture, disons qu'après ma mauvaise expérience en école de musique par rapport au cours de piano dont je parlais tout à l'heure, je m'étais un peu mise en tête que si je ne savais ni lire ni écrire la musique, c'était foutu quoi. Il y a une manière un peu de transmettre la musique en France, alors pas partout, et évidemment, heureusement, ça s'ouvre depuis des années, mais à l'époque, quand j'étais petite, pas si loin, mais quand même, il y avait quand même une tendance très française, très occidentale. Enfin, il y a de toute façon une culture très écrite de la musique, la culture occidentale, de la musique savante. Déjà, on fait la différence entre musique savante et musique traditionnelle. Et voilà, je m'étais mis en tête que non, je savais pas lire ni écrire, donc... si je faisais de la musique, c'était pour rigoler entre potes dans un garage, et puis voilà, après les cours ou après le travail, et puis c'était tout. Et là, cette expérience avec Alif Tree m'a vraiment montré que non, bah non, pas forcément, parce que lui, c'est pareil. Lui, il est ingénieur du son de formation, donc comme moi. Et c'est un grand professionnel, c'est un grand musicien, compositeur professionnel qui a fait carrière et pourtant il ne sait ni lire ni écrire la musique. Donc ça a été un peu un premier contact avec cette manière de jouer, de transmettre, de partager la musique sans cet aspect théorique et puis à me dire ok bon c'est pas si grave en fait. Avant ça j'avais aussi eu une expérience au sein d'un ensemble de musique balinaise, un gamelan balinais qui est installé à Marseille depuis maintenant pas mal d'années. Où j'ai eu aussi cette première approche de la transmission orale, puisque là-bas, à Mali, les musiques se transmettent vraiment comme ça, oralement. Il n'y a pas de culture de la musique écrite. Donc ça a été des premières étapes comme ça. Et puis, je pense, le dernier déclencheur, c'est que les quelques années avant que je me lance dans la musique professionnellement, je travaillais dans ce qu'on appelle les politiques culturelles. Et je passais mes journées à recevoir des artistes, des professionnels en tout cas du spectacle, et notamment de la musique. Et ma mission était de les conseiller dans le développement de leur projet au sens assez large hein, sur tout ce qui est recherche de partenaires, de financement, etc. Et je pense qu'au bout de 3 ans à faire ça tous les jours, il y a un moment donné où je me suis retrouvée devant quelqu'un et je me suis dit en fait j'aimerais bien pouvoir me conseiller moi-même, parce que c'est pas forcément une bonne idée de s'auto-conseiller, mais en tout cas j'avais envie d'appliquer à moi-même les conseils que parfois je pouvais donner aux autres.
C'est ce que j'allais te dire, oui, dans tous les cas, là, t'as acquis du moins toutes les bases pour pouvoir peut-être te lancer à ce moment-là précisément et tu t'es dit, c'est ton tour.
Je me suis dit, c'est mon tour et puis je pense que tout simplement, ça m'avait donné confiance aussi parce que j'avais clairement peur aussi de me lancer. On entend tellement souvent, moi je viens d'une famille de médecins, donc pour eux, quand on connaît pas le milieu de la musique et qu'on entend son enfant dire « je veux me lancer, je veux être musicienne », ça peut être inquiétant. Enfin, c'est pas forcément simple d'envisager ça et j'ai un peu grandi dans cette ambiance-là. Ils m'ont toujours soutenue dans mes choix, mais je veux dire, il y a quand même, on sent que ça peut inquiéter un peu l'entourage. Donc, et je pense qu'après ces années, effectivement, à l'Arcade, dans les politiques culturelles, j'ai aussi gagné en confiance en moi et confiance parce que je commençais à connaître comment marchait, comment était constitué le réseau des musiques et de la culture en général en France.
Et ça s'est passé comment, la transition de travailler classique, enfin dans le milieu culturel, mais au boulot, à passer d'artiste? Ça a été genre comme dans les films, genre bam, je plaque tout et je me mets à chanter? Ou est-ce qu'il y a eu une transition, t'as fait ça tranquillement et t'es passé petit à petit Comment ça s'est passé?
Alors, j'aimerais pouvoir dire que je me suis levée dans mon bureau voilà. Et que je me suis mise à chanter et à danser sur tous les bureaux en sortant en disant voilà. « Je m'en vais, je ne reviendrai pas !» Mais non, ça ne s'est pas passé comme ça. Tout simplement aussi parce que ça se passait très bien dans mon ancien travail, donc j'avais pas envie non plus de partir du jour au lendemain et de claquer la porte, c'était pas l'idée. Mais tout simplement, j'étais dans un... C'est vachement moins glamour du coup, hein. Faudrait que je travaille une histoire pour raconter ça, parce que... En fait, j'étais tout simplement en fin d'un CDD de 3 ans, et il y avait 2 possibilités, soit effectivement je restais là, soit je partais parce que c'était la fin, quoi. Donc c'était, une manière assez simple de partir. Je veux dire, non, j'ai pas démissionné, j'ai effectivement pris le risque, entre guillemets, de me lancer complètement dans le projet, mais j'avais assuré mes arrières aussi, justement. J'ai pas démissionné, j'ai attendu une fin de contrat, j'avais des employeurs qui étaient très compréhensifs par rapport à ça, avec qui j'ai pu en parler avant, et ça a préparé un peu cette transition du bureau à la scène.
C'était le bon moment.
Exactement, et moi j'en riais au début, et maintenant je le dis de plus en plus sérieusement en disant les planètes se sont alignées à ce moment-là. Mais en fait, je continue à le dire parce qu'il y a une sorte d'évidence qui émerge de tout ça. C'est-à-dire que c'était le moment où effectivement, bon bah oui, il y avait une fin de contrat, une fin de CDD, donc c'était facile de partir. Mais en même temps, tout s'est un peu enchaîné et aligné à ce moment-là où c'était le bon moment pour lancer La Madrugada. C'était le bon moment pour commencer à travailler sur les arrangements, pour trouver des partenaires, pour produire, pour coproduire le répertoire, etc. Donc ouais, c'était le bon moment, quoi.
Quelque chose qui est un peu moins évident à comprendre après toutes ces énumérations d'Amérique, de musique balinaise, c'est l'esthétique typique de ce projet, donc La Madrugada. Je vous propose d'écouter un petit extrait de suite, donc, qui se nomme El Cosechero.
tierra del Chaco quebrachera y montarás. Prenderá mi sangre con un ronco sapucay y será en el sur con mi sombrero bajo el sol faro de luz. Algodón que se va, que se va, que se va. Plata blanda mojada de luna y sudor. Un tranchito borracho de sueños y amor quiero yo. Algodón que se va, que se va, que se va. Plata blanda mojada de luna y sudor. Un tranchito borracho de sueños y amor quiero yo. Está un acordeón gimiendo va su lento chamame. Rumbo la cosecha, cosechero seré. Y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. La tierra del Chaco quebrachera y montarás. Prenderá mi sangre con un ronco sapucay. En el sur con mi sombrero bajo el sol faro de luz. Algodón que se va, que se va, que se va. Plata blanda mojada de luna y sudor. Un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo. Algodón que se va, 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 que se va. Plata blanda mojada de luna y sudor. Un borracho de sueños y amor quiero yo, quiero yo, quiero yo.
C'était El Cosechero de Mandy Le Rouge. Vous êtes toujours sur Fréquence Mistral et nous continuons donc cette interview en compagnie de Mandy Le Rouge.
Fréquence Mistral, ma radio, mon pays.
Je pense que la plupart des auditeurs auront reconnu l'espagnol. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce que tu fais exactement ?
Alors oui, c'est de l'espagnol, effectivement, mais de l'espagnol d'Argentine, puisque...
Ne pas confondre.
Et surtout que dans ce répertoire-là, il n'y a pas que de l'espagnol. Il y a aussi parfois des mots en guarani ou en quechua. Parce qu'en Argentine, il y a énormément de cultures différentes. Et beaucoup différents peuples aussi, et notamment au nord de l'Argentine, il y a d'un côté les Guaranis, plutôt au nord-est du pays, et au nord-ouest, il y a les Quechua. Et ces peuples-là, au fil des siècles, au fil des rencontres culturelles qui ont pu se faire dans ces territoires-là, ont donné naissance à différentes musiques qui sont maintenant les musiques qui... Enfin, maintenant et puis depuis très très longtemps, les musiques traditionnelles de l'Argentine, et c'est ces musiques-là qui constituent le répertoire La Madrugada.
Donc tu as l'air super calé en culture argentine. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Donc du coup, pourquoi ce choix ? Pourquoi un répertoire issu du folklore argentin ? Qu'est-ce qui a déclenché du coup un peu cet engouement autour de cette culture ?
Alors effectivement, c'est un peu original, on va dire, dans le sens où je n'ai aucune origine argentine. Je ne descends pas du tout de parents ou de grands-parents, je n'ai pas d'histoire autour de ça, je n'ai pas de sang argentin qui coule dans mes veines, a priori en tout cas. Mais je parle d'un coup de foudre culturel, parce que je suis partie moi en Argentine en 2014, je ne connaissais pas du tout ces musiques-là, moi je suis partie en Argentine pour danser le tango, que je danse depuis maintenant quelques années.
Donc tu es danseuse aussi ?
Je danse aussi en tout cas. Et surtout pour les chevaux, puisque je suis cavalière depuis l'enfance, et pour moi c'était un rêve d'adolescente de pouvoir aller parcourir l'Argentine avec les gauchos, donc le peuple cavalier de l'Argentine, un peuple cavalier mythique pour tout cavalier, qui aime en tout cas faire du cheval en extérieur. Et je suis partie comme ça, vraiment, j'ai passé quelques jours à Buenos Aires pour danser le tango, et puis très vite j'ai pris un bus pour partir au nord du pays, au nord-ouest donc, du côté des Quechua, du côté de la Cordillère des Andes, pas très loin de la frontière bolivienne. Et là, dans le bus, en fait, j'ai découvert ces musiques-là. Très tôt le matin, il était 4-5 heures du matin, et le chauffeur de bus écoutait à fond les musiques traditionnelles argentines. Donc,
Coup de foudre.
Pas encore à ce moment-là.
Pas encore.
En fait, c'est surtout que j'ai un souvenir très marquant parce que j'étais à moitié endormie. J'étais dans des très grands bus avec devant vue panoramique, des vitres, des bus à étage avec une grande vitre panoramique devant. Donc je voyais les paysages de montagne qui défilaient dans les lueurs comme ça matinales avec des belles couleurs rouges, orangées, rosées sur des montagnes incroyables, des routes très sinueuses. Et puis bah endormi et aussi sous le coup du décalage horaire. Et puis d'un coup ce chauffeur qui met la musique à fond, alors que enfin en France j'ai jamais vécu ça, en tout cas un chauffeur de bus qui met à 4h du matin de la musique à fond, et puis tout le monde dans le bus qui était là, qui tapait dans les mains comme ça sur la musique, je me disais mais qu'est-ce qui se passe, quoi.
Il y avait vraiment de l'ambiance dans le bus.
Ah, il y avait de l'ambiance dans le bus.
4h du matin.
4-5 heures du mat, ouais. Ah ouais. Et les gens chantaient, ils tapaient dans les mains, ils disaient épa.
Mais dans le bus ex-Marseille, c'est pas la même ambiance.
Non, c'est pas la même ambiance, c'est vrai.
C'est sympa.
Donc ça a été le premier, en tout cas premier contact. Et c'était la première fois que j'entendais ces mots chacarera, samba. Samba, pour moi, la samba, c'était la samba brésilienne. Alors que
de Brésil.
Pas du tout, là, c'est la samba avec un Z, la samba argentine. Voilà, c'est justement pas vraiment
c'était
celle-là.
4h du matin, c'est dur quand même.
Et du coup, voilà, ça a été le premier contact. Et puis, bon, j'ai fait mon voyage, j'étais avec les gauchos. J'ai pas vraiment rencontré de musiciens. J'ai pas traîné aux bons endroits, en tout cas, pour rencontrer des musiciens en live à ce moment-là. Mais un an plus tard, à Paris... j'ai assisté un peu par hasard à un concert au musée du Quai Branly, concert de Django Spasiuk.
Que nous avons déjà reçu à la Cité il y a
exactement
quelques années.
Exactement, en 2016. Et donc en 2015, moi j'étais à Paris, j'ai assisté à ce concert de Django Spasiuk, qui est un accordéoniste de chamamé. Chamamé, c'est la musique du nord-est de l'Argentine, et qui est vraiment un des plus grands représentants au monde de ces musiques-là. Et j'ai été vraiment mais bouleversée, enfin il n'y a pas d'autre mot. J'ai été retournée, j'ai été complètement comme jamais en assistant à un concert. J'avais les poils qui se hérissaient sur les bras, j'avais en même temps une grande joie et en même temps une profonde tristesse en écoutant cette musique. Enfin, c'était quelque chose qui vraiment, que j'explique toujours pas maintenant, puisque c'était une musique que je découvrais à ce moment-là. Et vraiment, ça m'a mais scotché sur mon fauteuil. Je me suis dit, bon, quand même, ça fait deux fois là qu'il se passe un truc avec les musiques argentines. Et je suis rentrée à Marseille. Et en fait, j'ai acheté deux disques de Django Spasiuk. J'ai commencé à les écouter. Et puis après, merci Internet, j'ai réussi à trouver énormément de répertoires argentins traditionnels. Vraiment très traditionnels, de vieux enregistrements.
Est-ce que ça ressemblait aux musiques du bus à 4h du matin?
Oui, complètement, ça ressemblait à ces musiques-là. Et c'est là que j'ai commencé à me nourrir de ces musiques, et plus je les écoutais, et plus j'avais envie d'en écouter. Et puis j'ai commencé à les chanter, mais comme ça, chez moi, par-dessus les disques, comme je faisais quand j'étais petite, quoi. Je commençais à chanter ça, et c'est comme ça que j'ai découvert ces musiques-là.
Du coup, si t'étais partie en Russie et que t'avais rencontré Vladimir Rousslov, t'aurais fait de la chanson russe?
Ouais, j'ai eu peur quand t'as dit Vladimir.
J'ai inventé un nom, j'avais que Vladimir. Ou Dimitri, mais bon, ça fait.
Voilà.
Du coup, t'aurais fait du... C'est vraiment le hasard d'avoir fait l'Argentine.
Oui, c'est le hasard d'avoir fait l'Argentine, mais en même temps, quand même... Oui, peut-être que j'aurais fait de la musique russe, mais en même temps, j'ai jamais, comme je disais, j'ai jamais été autant bouleversée par une musique que par ces musiques-là. Donc je pense que je me suis trouvée au bon endroit, au bon moment, ou en tout cas, enfin, fallait que j'aille à cet endroit-là à un moment donné pour avoir un peu cette révélation musicale. S'il y a des Russes qui nous écoutent, j'aime bien votre musique, hein, mais disons que ça m'a jamais fait cet effet-là.
Mandy le Rouge, alors, ce pseudo n'est pas très argentin. T'aurais pu t'appeler Hermana Mandy, ou je sais pas.
Ou Mandita la Roja.
Ouais, ou Mandy... Mandi Tabasco, je sais pas.
Alors, bah, encore une fois, on va dans des endroits, dans les endroits les moins glamour de l'histoire de la Madrugada et de Mandi le Rouge. C'est terrible, c'est terrible. Si tu faisais ruiner ma carrière avec cette interview. Rien de fou, Mandi le Rouge. Disons que j'ai un nom de famille qui est un peu compliqué. Juste pour le décrire aux auditeurs, il ne rentrerait pas sur une pochette de disque, ni même sur un plateau de Scrabble.
Combien de lettres ?
19 lettres.
Ça compte double, c'est
sans tirer. Sans tirer, il n'y a pas de tirer, il n'y a pas d'espace, c'est en un seul mot, et il y a des Y dedans.
Ah, il y a des Y, voilà. Beaucoup de consonnes.
Pas tant. Ce n'est pas polonais. Donc.
Tu n'as pas à nous le prononcer ?
Oh non, ce n'est pas nécessaire. Ouais. Mais le rouge, c'est le nom de mon arrière-grand-père. Donc
plus succinct.
C'est un vrai nom de famille, je veux dire. C'est pas un choix par rapport à la couleur. Parce qu'on me pose souvent la question, c'est vrai, mais non, c'est pas par rapport à la couleur, c'est un hasard.
Enfin, par rapport à la Russie.
Mais voilà, mais décidément, en fait, c'est aujourd'hui que je découvre mon amour pour la Russie et que tout était écrit. Non, voilà, c'est le nom de mon arrière-grand-père. Et Mandy, tout simplement, c'est le diminutif d'Amandine, pour le coup, et qui est mon vrai prénom. Et quand j'ai travaillé il y a quelques années avec des artistes anglais, britanniques, à Manchester, ils n'étaient pas en mesure de prononcer Amandine. Ils n'y arrivaient pas à se souvenir de Amandine. Donc ça a fini en Mandy.
Mandy, ça fait international.
Puis ça m'a plu, en fait. Et puis c'est resté. Voilà. Et puis du coup, ça amuse les Argentins, le rouge. Donc ils m'appellent la Roja, qui serait la traduction de la rouge. Et du coup, voilà, c'est devenu un petit jeu pour les Argentins aussi, puisqu'il y avait une grande chanteuse argentine qu'on surnommait la Negra, la Noire.
Est-ce que tu peux nous parler donc de cette musique-là que nous avons écoutée tout à l'heure, El Cosechero, peut-être nous expliquer de quoi elle parle, pour les personnes qui ne sont pas bilingues.
Et même pour celles qui le sont, puisqu'il faut quelques petites références à l'Argentine quand même. Tout le répertoire qu'on présente sur scène, quand même, je voudrais préciser que c'est un répertoire donc traditionnel, préexistant, comme on dit. Donc ce ne sont ni des compos, ni des textes que j'aurais signés. C'est vraiment du répertoire que je suis allée chercher dans le répertoire le plus traditionnel de l'Argentine. Et en revanche, derrière, j'ai demandé à un musicien, un compositeur, pianiste, Lalo de Sanelli, de faire des arrangements pour leur donner cette touche qui est actuel dans le sens où c'est un son qui est de maintenant, quoi. Et une touche de jazz aussi. Ça me tenait à cœur qu'il y ait cette touche de jazz parce que j'ai aussi toujours aimé chanter le jazz. On m'a souvent dit, comme j'ai une voix assez grave naturellement, et avec un certain grain, une certaine chaleur, que ça se prêtait bien au jazz. Et donc j'avais envie de donner cette couleur-là. Pour El Cosechero, en fait, El Cosechero, littéralement, ça veut dire le moissonneur. Et en fait, elle raconte l'histoire de quelqu'un qui est en train de faire la récolte du coton et qui explique la difficulté de ce travail, qui dit que en fait on en ressort avec les mains complètement égratignées ou brûlées par le soleil, la peau aussi abîmée par le soleil, le vent, la poussière, etc. Mais en même temps, là-dedans, la personne qui raconte cette histoire y voit des choses belles et poétiques. Parce que c'est un peu ça, et c'est ce qui m'a plu dans le folklore argentin, c'est que très souvent on parle de choses assez simples mais difficiles de la vie, donc le travail de la terre, ce genre de choses, mais en même temps, on y voit toujours de la poésie et on essaye d'y voir quelque chose de positif. Là, en l'occurrence, la personne qui décrit ça décrit les paysages en disant qu'elle voit le coton s'envoler comme si c'était un peu des flocons de neige, et elle raconte que ce coton s'en va dans un train. Et on entend un peu le son du train quand il rumbo la cosechero yo seré. Ça, c'est pour imiter un peu le bruit du train. Et le texte dit algodón que se va, que se va, que se va. Le coton qui s'en va, qui s'en va, qui s'en va. Voilà, c'est de ça que parle El Cosechero.
Et donc, tu parlais de Lalo Zanelli qui donc a fait les arrangements. On imagine donc que tu n'es peut-être pas toute seule sur scène avec ta voix.
Heureusement.
Est-ce que tu peux nous parler de ces musiciens qui t'accompagnent tout au long de cette aventure ?
Oui, je suis très bien accompagnée sur scène. Donc effectivement, Lalo Zanelli qui a signé les arrangements et qui est aussi sur scène. Donc Lalo Zanelli, pour la petite histoire, c'est un de ces Argentins installés depuis très longtemps en France. Ça fait une trentaine d'années qu'il habite à Paris. Et il a été notamment connu pour avoir été le pianiste de Gotan Project. Donc il a fait vraiment le tour du monde avec Gotan Project. Et il a aussi été le directeur artistique de différents albums de François Béranger. Et il a travaillé aussi avec Melingo. Enfin voilà, il a travaillé avec beaucoup de monde. Il a fait des musiques de films aussi. Ça vraiment un
et
grand.
Et donc t'as pas choisi les pires quoi.
Non. J'ai tenté. J'ai contacté en tout cas ceux avec qui je rêvais de travailler. C'est un peu ce que je me suis mis en tête quand. Quand j'ai quitté mon travail et que je me suis lancée, je me suis dit, bon, quitte à se lancer...
Autant être avec les meilleurs.
Autant être avec les meilleurs et surtout autant être avec ceux avec qui vraiment je rêvais de travailler, quoi. Donc je me suis dit, bon, je demande et puis au pire, c'est non et puis c'est pas grave, je travaillerai avec quelqu'un d'autre. Et tous ont dit oui.
Donc Lalo, check.
Lalo, check. Donc composition, parce qu'on joue aussi des compositions à lui quand même sur scène. Composition, arrangement et piano, Lalo Zanelli. Ensuite, aux percussions, Javier Estrella, encore un Argentin installé depuis longtemps, lui aussi à Paris, qui est un grand batteur de jazz aussi et qui a aussi joué en plus en tango avec un artiste qui s'appelle Juan Carlos Cáceres. Et puis, à la contrebasse, un Colombien. Felipe Nichols, qui lui aussi est en France depuis une vingtaine d'années et qui a une grande expérience en tango et en jazz aussi, et donc lui est à la contrebasse. Et au son, on a un Français, et je tiens à le citer parce qu'il fait partie de l'équipe autant que les musiciens, et pour moi c'est hyper important d'avoir un ingé son parce que ça fait partie vraiment de l'identité sonore du projet. Il n'y a pas que le fait de jouer de la musique, il y a la manière dont on la sonorise et dont on la retransmet au public. Et donc avec nous au son, c'est Romain Pérez, qui malgré son nom n'a rien d'argentin ni de colombien. Alors.
C'est vrai que ça sonne quand même hispanique, hein, Pérez.
Pérez.
Pérez. J'ai une petite question, moi, qu'est-ce que ça veut dire la madrugada?
La madrugada. Alors en fait, c'est l'aube. Enfin, l'aube ou l'aurore, j'avoue, à chaque fois, je confonds un petit peu. En tout cas, c'est le moment où on voit la lumière du soleil, mais où on ne voit pas encore le soleil. Le soleil n'est pas encore sorti de l'horizon.
Est-ce que finalement, c'est un peu l'atmosphère d'un bus argentin à 4h du matin?
Mais qu'est-ce qu'elle est forte!
Oh là là.
Oh là là! C'est exactement ça. C'est le moment où j'ai rencontré, découvert ces musiques-là. Et puis, c'est un moment, moi, qui me plaît beaucoup de la journée. Où il y a une sorte de silence comme ça, où on entend juste quelques oiseaux, enfin en tout cas les réveils à la montagne, à la campagne, là où j'ai grandi, où on entend voilà, cette petite rumeur de la nature, où il y a les odeurs de la nuit, de la forêt, de l'humidité, d'une petite bruine matinale, et où il y a ces lumières qui déforment un peu la réalité, où c'est des lumières très douces, colorées, qui vont un peu comme ça... caresser le flanc des montagnes et quelque chose d'assez rêveur là-dedans.
Donc finalement, ce premier opus, si je peux dire ça ainsi, représente clairement la naissance de ton projet finalement. Tu reprends l'essence même de ce qui t'anime aujourd'hui par le biais de la madrugada.
C'est ça, c'est la naissance et puis c'est le lever d'un nouveau jour aussi.
Une petite question aussi, fais gaffe à ta réponse. Hein. Quel est ton meilleur souvenir de scène? Mandilo Rouge, enregistrement à la Cité de la Musique.
Souvenir de scène. Tu veux dire un... Ah ouais, tu veux que je balance un lieu en fait, c'est ça?
Comme tu veux, non, non. Quel est ton meilleur un moment qui t'a le plus marqué?
Attention à ce que tu dis.
On t'écoute. Hein.
Ben, attends. Il y en a plusieurs forcément. Forcément, mais effectivement, il y en a un qui a été très marquant pour moi. Et tout le monde sourit autour de la table parce qu'ils savent ce que je vais dire. Mais c'est vrai. Le festival Caravane Serail.
Ah ouais?
Le festival
Caravane
Serail.
Ah ouais, c'est quoi? Non, au théâtre Sylvain à Marseille, ça a été incroyable. C'est un énorme souvenir parce que tu arrives sur scène, c'était la première grosse scène avec la Madrugada. Il y avait quoi? Il y avait combien de personnes? Je suis sûr que vous savez mieux que moi. Ce soir-là, il y avait...
2000 pour ta soirée.
2000 personnes.
Ouais, 2000 personnes. Théâtre Sylvain, c'est un lieu incroyable où je suis allée voir plein de concerts. Donc, c'était pour moi de se retrouver sur une scène. Quand on a assisté à beaucoup de concerts dans une salle, ça fait quelque chose. Et de voir toute cette masse de gens, de voir la mer en même temps, pas loin, enfin de voir ce paysage marseillais. Et puis, quand même, je dois avouer, de voir Rokia Traoré qui attendait après son tour, entre guillemets, pour faire son concert après nous. Ce soir-là, ouais, c'est clair que c'était un souvenir incroyable. Après, je pense pouvoir dire que tout projet confondu, si j'ai le droit d'étendre la question à ça, au-delà de la madrugada, parce qu'on a passé voilà très beau moment avec la Madrugada sur cette année de cette première année de création. Et moi, il y a quand même un moment qui pour moi a été le moment le plus fort de ma vie scéniquement parlant, c'est quand j'ai chanté avec Django Spasiuk, justement, qui est l'artiste par lequel j'ai vraiment découvert ces musiques-là traditionnelles argentines, et qui, 2 ans plus tard, m'invite à monter une tournée de quelques dates avec lui. Et là, la semaine dernière, je me suis retrouvée en Ardèche, à Aubenas, à la salle Le Bourneau, où j'ai été invitée à chanter avec lui et Raúl Barbosa, qui est la mémoire vivante de ces musiques-là, qui a 80 ans, et qui... Enfin, ouais, pour moi, c'était incroyable en tant que jeune artiste, jeune chanteuse qui chante depuis pas si longtemps ces musiques-là et qui en plus n'a aucune origine argentine. Pour moi, c'était juste impensable de me dire « Ok, cette année, je chante avec Django Spasiuk et Raúl Barbosa sur la même scène, tous les deux à côté de moi. »
En Ardèche.
En Ardèche. Incroyable.
Au Benin.
Au Benin.
Alors Mandy, moi, j'ai envie de jouer avec toi. Est-ce que tu es joueuse ?
Bah ouais.
Ouais.
Allez, on y va.
T'es pas mauvaise perdante.
Si je gagne, non.
Bon, on va voir.
Est-ce que t'es pas susceptible ? Je sais pas dire le mot, mais vous avez compris.
Susceptible. Ouais. Est-ce que je suis susceptible ? Non.
Parce que c'est surtout ça le problème avec ce jeu, en fait.
Ah d'accord.
Vous allez voir. On va jouer à un jeu qui s'appelle le Google Drag. Ah. Vous avez tous déjà joué, enfin moi, à l'époque, avec l'outil Google Traduction. Vous savez, vous lui faites parler dans toutes les langues et vous lui faites dire des choses où il n'y a que moi.
Non, je crois qu'il y a que toi.
Ah, voilà, j'aime
Patrick
bien ça.
Qui joue
j'aime
aussi, bien, ça bien. S'éclate. Bah, c'est ce que j'ai fait. C'est des étrangers qui vont venir vous parler dans leur langue. Il va falloir deviner tout simplement s'ils vous draguent ou pas.
Ok. Okay.
On va commencer avec Eva.
Ouais.
T'as une Russe qui va venir te parler. T'écoutes bien ce qu'elle dit. Tu me
ça
dis si elle te drague.
Un Russe,
c'était pour
pas.
Moi les Russes.
Non, c'est une Russe, ouais. Bah, alors tout a été réparti au hasard.
Parce
pour
que
être
moi,
sûr
si je me fais draguer par une Russe, j'approuve tout. J'ai pas envie de finir bouffée par des ours.
Eh ben, on écoute ce qu'elle a à te raconter.
Когда я слышу хорошего певца, я плачу. Но когда ты поешь, из моих ушей течет кровь.
Est-ce qu'elle te drague ou pas ?
Moi, je pense qu'elle est vénère contre moi.
On écoute la réponse.
Quand j'entends une bonne chanteuse, je pleure. Mais quand tu chantes, c'est du sang qui coule de mes oreilles.
Voilà, je
donc,
savais.
Vénère avec
je
toi.
Savais.
Bonne
je
réponse.
Me demande où est-ce qu'elle m'a entendu chanter.
Mandy, la personne est chinoise. C'est une chinoise. Ouais. Donc on écoute et tu nous dis si elle te drague ou pas.
我打算和Noemi的Mandy LaRouche建立一个小组黑色米歇尔白色和黄色列侬让您看到所有颜色.
Elle est bavarde. Hein.
Alors, là, il y a des choses à dire. J'ai compris qu'une seule chose, moi c'est Mandy le rouge après.
Je pense qu'elle est amoureuse
après.
De toi.
Ah ouais, Mandy.
Moi, j'allais dire qu'elle m'allumait, mais que c'était un peu long quand même pour ouais. Allumer.
Donc
je vais dire non.
Attends, mais qu'elle t'allumait dans quel sens du coup ?
Ah oui.
Qu'elle me branchait. Qu'elle okay. Me draguait.
Ah voilà.
Donc elle ne te drague pas ?
Du coup, elle ne me drague pas, je dirais.
On vérifie.
J'ai pour projet de monter un groupe avec Mandy le Rouge, Noémie le Noir, Michel Blanc et Jaune les Nonnes pour t'en faire voir de toutes les couleurs.
Bon, c'était un peu de la drague, du coup.
La drague intéressée,
ouais,
quoi.
Voilà, bah, travailler aussi, quand même. Hein.
Ce qu'il y a de bien avec le Google Voice comme ça, c'est qu'il n'y a aucun accent, rien du tout.
Non.
Donc le jaune,
jaune Lennon.
Mandy le Rouge, Noémie le Noir et Jaune Lennon, c'était pas mal.
Non, parce qu'en fait, quand j'écris, j'ai vraiment écrit le mot jaune.
Ah, d'accord.
Pour qu'elle le dise bien. Pour bien que ça fasse l'effet.
C'est pour sa blague.
Oh, on a un super pantone, là.
Parce qu'elle travaille bien, elle faisait jaune, sinon. Donc,
ah, ok.
Julia, à toi. Donc la personne est arabe et elle va te parler. On va voir si elle te drague ou pas.
أجدك جميلة جدا. نعم. حيث أنني طالب في مدينة الموسيقى، فأنا قوي جدا في لعبة بيبو.
C'est
alors.
Bon
oh wow. C'était super long.
C'était long.
Mais allez, je veux bien tenter une drague.
Elle te drague, on écoute. Ouais,
je te trouve très jolie. Oui, depuis que je suis élève à la Cité de la Musique, je suis très forte en pipo. Ah,
du coup, bah non.
C'était un chaud froid.
C'était un chaud froid, c'est ça. On termine avec Patrick. Alors, il m'en reste deux, donc tu vas choisir. Est-ce que tu veux une allemande ou un italien ?
Oh,
pourquoi j'ai pas eu l'italien,
italienne.
Moi
italien ah, bah, ou italienne.
On lui donne l'allemande et tu prends l'italien après.
Allez, italien.
Tu veux l'italien ? Non, c'est un italien. Hein. On est sur du masculin. On écoute.
Se alcuni fanno la samba, cosa stai facendo? Noi samba, le palle.
Alors.
Un truc.
Non, il est énervé là. Il est énervé, je pense que il me cherche un truc là. Non, non.
Moi, je pense qu'il l'invite à danser à la samba.
Voilà. J'ai entendu samba aussi.
Il y a de la samba.
À mon avis, c'est caliente.
Il m'invite à danser, mais j'ai pas envie en fait.
À mon avis, c'est caliente.
On écoute.
Si certains font de la samba, ce que tu fais toi, on s'en bat les couilles.
Ah. Bravo.
C'était pas ça.
Bravo.
Merci Patrick. Wouh. Vous avez pas été très bon, hein?
Non.
Bon. Enfin, moitié-moitié.
On avait envie de se faire brancher, c'est tout.
Voilà, c'est ça. Merci Eva, je te laisse la main du coup.
Bravo Dimitri quand même, on peut l'applaudir je pense.
Ouais, merci pour ce jeu.
Bip bip. Gap, Sisteron, Digne, Briançon, Castellane, Manosque. Moi j'écoute Fréquence Mistral.
Donc merci Dimitri pour ce super jeu. On a passé un super moment donc avec Mandy Le Rouge aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur tes projets,
sur l'année à venir,
sur l'année
par exemple.
À venir 2020 en l'occurrence.
J'ai des scoops pour vous.
Tu as des scoops.
L'année 2020. Bon ben déjà moi je d'une manière assez personnel et en même temps très lié au projet, je pars en Argentine tout début de l'année, pendant 5 semaines, pour me nourrir encore un peu plus de ces cultures-là, aller à la rencontre vraiment aussi des peuples Guarani, aller dans les villages Guarani. Je pars avec un sac à dos et un enregistreur et un appareil photo, ce qui va faire des vidéos aussi. Et puis voilà, l'idée c'est d'aller me balader vers les chutes d'Iguassu, essayer d'enregistrer le plus de musique possible, d'ambiance sonore aussi, dans la nature, etc. De faire du cheval encore, évidemment, danser le tango aussi. Mais voilà, aller à la rencontre en tout cas de ces peuples qui sont à l'origine de ces musiques-là, et aussi aller visiter en fait les lieux qui ont inspiré les chansons. C'est-à-dire qu'on a quelques morceaux dans le répertoire qui parlent vraiment d'endroits très précis. Et j'avais envie tout simplement d'aller voir pourquoi ces montagnes-là ou pourquoi cette forêt-là a inspiré cette chanson en particulier. Donc voilà, je vais faire un petit road trip là-bas pendant 5 semaines. Et puis ensuite, on va enregistrer l'album. L'album de La Madrugada, puisque cette année on avait sorti ce qu'on appelle.
Il y a déjà un EP qui était disponible cette année.
Qui est toujours disponible d'ailleurs.
Qui est toujours disponible
en vente physique sur le www.mandylerouge.com ou à la fin des concerts aussi, ou sinon aussi en écoute sur toutes les plateformes digitales. Et donc l'album, où une douzaine de titres, on va l'enregistrer là au mois de mai dans un magnifique studio qui est le studio La Buissonne, toujours dans la région, donc c'est dans le Vaucluse à Pernes-les-Fontaines, un studio vraiment magnifique et très familial. Et on enregistre quelques jours là-bas et puis on le sortira, on n'a pas de date encore officielle à communiquer parce que ça dépend de pas mal de paramètres, mais en tout cas ce sera courant de l'automne 2020. Donc l'année sera quand même pas mal dédiée à ce bébé là.
On espère te revoir chez nous du coup pour la présentation de ce super album cet automne.
Avec plaisir.
Si vous voulez suivre l'actualité donc de Mandy, est-ce que Mandy tu peux nous rappeler ton site, tes réseaux sociaux pour qu'on puisse rester connecté et suivre ton actu.
Bien sûr. Donc www.mandylerouge.com et puis sinon sur à peu près tous les réseaux, sur Facebook, Instagram, Twitter, @mandylerouge.
Donc je vous le rappelle, le jeudi 19 décembre à 19h au Centre culturel René Char à Digne-les-Bains, vous pouvez retrouver La Madrugada en concert gratuit. Merci à tous pour cette émission. Julia, merci qu'on n'a pas trop entendu. Merci. Un peu timide, Julia. Merci, Patrick.
Merci à toi, Eva. Tu es ravissante.
Oh, merci. Merci, Dimitri, aussi, merci pour sa toi. Bonne merci. Humeur et son humour. Et un gros merci à Mandy qui était avec nous aujourd'hui.
Merci, Eva.
Fréquence Mistral. Ma radio, mon pays.